La première partie de ce message était sur les mages, donc on est dans la continuité de ce premier message qui vous a été partagé, et j'avais vraiment apprécié la conclusion qui avait été donnée par le pasteur Olivier, qui nous a rappelé ce verset que nous connaissons tous, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cela introduisait la fin de cette partie sur les présents que les mages ont offerts à Jésus, et je voudrais encore et à nouveau insister sur la dimension prophétique de cet acte. Je crois que nous n'avons pas pris la mesure de la dimension prophétique des trois présents qui ont été offerts par les rois mages. Alors, je dis pas les rois mages parce que c'est tout à fait fallacieux. On ne sait même pas quelle est leur identité. Ce sont des mages, des astrologues ou des astronomes. Mais en tout cas, il n'a jamais été mentionné qu'en effet, ils étaient rois. Donc, je me corrige immédiatement. Mais j'aimerais insister sur la dimension des cadeaux. Et en effet, déjà, le plus beau cadeau que nous ayons reçu, c'est Jésus dans notre cœur. Et puis, tout au long de la prédication, il nous a été rappelé quel cadeau nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que le Seigneur attend des présents matériels? Certainement pas. Le Seigneur attend que nous offrions notre vie, que nous donnions notre vie. Et je crois que c'est là l'aspect le plus important. Mais nous allons recevoir la parole de Dieu comme étant un cadeau pour nous ce matin. Et ces trois présents, ouvrez vos cœurs et gardez la disposition de l'état d'esprit que vous aviez incarné dimanche dernier. Vous étiez comme des petits-enfants. Eh bien, je vous invite aussi à être comme des enfants et à vous régaler de cette parole que Dieu veut vous transmettre à travers cette méditation que je vous propose. Alors, les cadeaux apportés par les mages font référence à ce texte d'Ésaïe, extrait du chapitre 60, des versets 1 au verset 6. « Debout, elle est venue ta lumière. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Tous les gens de Séba, c'est dans ma traduction, viendront apportant l'or et l'encens. Publieront les louanges de l'Éternel. » Souvenons-nous que la venue de Jésus dans ce monde avait été prophétisée par les prophètes Jérémie, Michée, Ésaïe. Donc l'avènement du Seigneur était attendu. Et je vous rappelle ce chapitre 60 du verset 1 au verset 6 que nous avons lu. Et nous allons évoquer ensemble ce matin les trois présents. L'or, l'encens, la myrrhe. Trois offrandes. Et nous allons nous attarder sur la dimension bien plus qu'allégorique, bien plus que symbolique, mais la force prophétique, la force spirituelle de ces trois présents. La puissance que revêt ces trois, finalement, objets que représentent l'or, l'encens et la myrrhe. Et nous allons parler de l'or. L'or, si vous voulez bien. Alors, peut-être que cette image est étonnante, mais souvenons-nous que l'arche d'alliance était couverte d'or. Une arche, d'accord, d'alliance, faite de bois, conçue en bois, couverte d'or. Alors, la démarche des mages me fit songer également à la reine de Séba, lorsqu'elle a pris la renommée de Salomon. Elle se déplaça à Jérusalem pour admirer Salomon et lui faire des louanges. Et puis, comme elle était intriguée par sa sagesse, elle est venue sonder sa sagesse et le mettre à l'épreuve. Dans 1 Roi 10.1, la reine de Séba a pris la renommée, donc je vous invite à lire votre Bible, 1 Roi 10.1, la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux, écoutez bien, des chameaux portant de l'aromate, de l'or Et tout ça en grande quantité. Des aromates et de l'or en grande quantité. L'or, mes amis, est un matériau qui est rare. Un des rares matériaux. Mais quelles sont les propriétés de l'or ? Moi, je me suis intéressé à ces qualités que revêtait l'or. Bien, l'or a quelque chose d'inoxydable. L'or ne se ternit pas. Il était fréquemment d'usage dans l'Antiquité d'offrir des présents aux souverains, et notamment des pierres ou des métaux précieux, notamment de l'or. Chaque civilisation dans l'Antiquité a fait usage de l'or pour symboliser la puissance, la beauté, la pureté et la richesse. Ce sont les propriétés symboliques de l'or. Les mages, en offrant de l'or à Jésus, viennent magnifier celui qui est appelé à être le roi de sa nation, et plus tard le roi des rois. Ils veulent aussi magnifier la pureté de Jésus, la pureté et la richesse de cet enfant, la richesse que Jésus va représenter pour toutes les nations. Comme l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus est l'héritier de toutes choses, qui est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Jésus a fait la purification des péchés. L'or a quelque chose de pur, et Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus est ainsi comme l'or, magnifique, pur, inaliénable, reflet d'une gloire éternelle. L'or qui est offert par les mages est destiné à glorifier, à célébrer et à honorer celui qui a été annoncé dans les Saintes Écritures comme le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Eh bien, c'est là où je voudrais que l'on ouvre nos oreilles, au-delà de nos oreilles, que l'on ouvre notre cœur et notre esprit et l'intelligence de notre cœur. Parce que l'or couvrait l'arche d'alliance. L'or couvrait l'arche d'alliance. L'arche d'alliance était considérée comme la résidence terrestre de Dieu. C'est comme cela que le peuple hébreu, les juifs, appréciaient cette arche de l'Alliance et considéraient l'arche de l'Alliance comme la résidence de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote à propos de l'idole Dagon, du dieu Dagon, qui a fait pâle figure devant l'arche de l'Alliance, puisque Dagon s'est effondré à deux reprises. Et tout le peuple et tous les ennemis qui s'étaient emparés de l'Arche d'Alliance avaient eu des hémorroïdes. Parce que la présence de Dieu au milieu de cette ville amenait tout un peuple à en trembler, à avoir de la crainte et de la peur. Et lorsque la population voulait se débarrasser de l'Arche de l'Alliance dans une autre ville, l'autre ville avait eu une crainte immense de recevoir cette arche. Cette arche symbolisait la présence de Dieu. Et c'est la préfiguration de la présence de Dieu pour nous. La préfiguration de la naissance de Jésus. Le coffret en bois nous rappelle finalement la mangeoire en bois. Et les mages viennent magnifier Jésus avec de l'or. Cette arche d'alliance était couverte elle-même d'or. Je trouve ça juste extraordinaire. Une préfiguration de l'avènement qui est pour nous, celle de Jésus venu en roi. Mais quel roi ? Parce que celui que les mages sont venus célébrer est né dans une mangeoire, dépouillé de tout, pauvre. Et finalement, il allait être le roi des rois pour nous. L'arche d'alliance entrevoyait la gloire de Jésus. Cette arche d'alliance, je vous rappelle, elle enfermait la manne. la nourriture que l'on vous donne là ce matin, la nourriture que nous avons reçue à travers la louange, la parole que nous donnons là à cet instant, c'est la manne. La manne, comme le croissant que tu as pris ce matin, mais ce que tu reçois là comme nourriture est une nourriture extrêmement précieuse. Le pain de vie. Jésus est né à Bethléem, la ville du pain, la commune, le village du pain. Cette arche d'alliance qui contenait également le bâton fleuri de Aaron. L'arche d'alliance contenait donc celui qui est appelé à être le souverain sacrificateur. Cette arche d'alliance, non seulement contenait le bâton fleuri, mais elle contenait aussi les tables de la loi. Et pour nous, la parole de Dieu, la parole incarnée, Jésus, qui est au-delà de la loi, qui par la grâce vient nous fait de nous ce privilège d'habiter aujourd'hui notre cœur. Nous sommes devenus son arche d'alliance, nous sommes devenus son temple, sa résidence. Nous sommes là la résidence de Dieu. Amen. Est-ce que nous prenons conscience que nous sommes la résidence de Dieu ? Dieu a fait de chacun d'entre nous sa résidence. Et nous sommes couverts de sa majesté. Amen. Nous sommes couverts de sa gloire. L'or des mages vient refléter l'arche d'alliance, incarnée et vivante. Il y a ce chandelier, souvenez-vous, en or, qui augurait le Fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, l'éclat de Jésus élevé à la plus haute dignité, élu et choisi par Dieu pour être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les mages, qui sont venus d'une nation non-juive, de Chaldée, de Perse, en Orient. Des mages, comme nous l'avons relevé ce dimanche, qui ont baigné dans la culture juive, qui ont su lire les signes de son avènement. Ces mages sont venus spécialement à Jérusalem pour adorer le roi des rois qui venait de naître. Jésus était, de par sa filiation, il était le descendant du roi David, un enfant donc de naissance royale. Jésus est né roi de par sa condition également divine. Et sa destinée comme envoyé par Dieu, Dieu le Créateur des cieux et de la terre, qui envoie son propre Fils en chair, dans une mangeoire en bois, que magnifient les mages. Jésus est destiné à devenir un jour le roi des Juifs et de toutes les nations. Il est appelé à régner sur toute l'humanité. Il sera, et c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit, il sera demain le roi des rois dont le règne s'étendra dans les cieux. Rappelons-nous à nouveau ce verset que nous avons déjà lu ce dimanche dernier, mais que nous pouvons lire à nouveau dans Matthieu 2:6. « Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Jésus est en effet le roi des rois, dont le règne s'étendra sur tout l'univers, ce que nous rapporte le texte de l'Apocalypse, et je cite le dernier verset, « Parce qu'il est Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. » Il est Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. En offrant parmi ces différents présents l'or, les mages confèrent à ce nouveau-né l'autorité d'un roi. Et c'est ce que nous devons comprendre. Les mages confèrent à Jésus l'autorité d'un roi. Et nous avons noté à la lecture du texte de Matthieu ce geste, c'est ce geste que les mages ont réalisé. Ils se prosternent. Ils ne se mettent pas à genoux. Ils se prosternent. Ils se mettent à plat. Ils reconnaissent la divinité de Christ. Ces mages s'inclinent, se courbent. Ils se courbent devant lui. Et par leur geste, ils prophétisent ce que Jésus déclarera plus tard dans le même évangile. « Toute autorité m'a été confiée dans le ciel et sur la terre. » Oui, au nom de Jésus, comme le firent les mages, tout genou fléchira. Philippiens 2, tout genou fléchira. Il est le roi. L'or vient symboliser que Jésus est le roi. Et c'est le roi ici que nous célébrons. C'est le roi Jésus que nous magnifions. C'est le roi Jésus que nous élevons. L'or qui a revêtu l'arche de l'Alliance, c'est Jésus, notre Alliance, celui qui a fait alliance avec chacun d'entre nous et qui fait de chacun d'entre nous le temple de son esprit. En offrant de l'or, un matériau que je rappelle non corrosif, car c'est l'autre propriété de l'or qui ne s'érode pas, les mages confessent que la valeur de celui qui est né à Bethléem, dans la maison du pain, est plus grande que toutes les richesses que possède le royaume de ce monde. Les mages nous déclarent que la vulnérabilité, tout comme l'importance de ce nouveau-né, est bien, bien plus puissante que tout l'or que pourrait détenir notre monde. Bien plus important encore que l'arche de l'Alliance. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'Alliance. Elle ne viendra plus à la pensée, c'est ce que Dieu déclare. On ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera point une autre. Il n'y aura point d'autre arche d'alliance. C'est dans le texte de Jérémie, chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Il n'y aura plus d'autre arche d'alliance puisque l'arche d'alliance est venue à Bethléem. Jésus magnifié, né dans une mangeoire en bois. Cette parole s'est accomplie. Jésus est l'arche vivante, le tabernacle de Dieu au milieu de nous. Amen. Le tabernacle de Dieu au milieu de nous. Les mages d'Orient qui ont fait ce long périple, ce long voyage, viennent offrir leur or. Ils viennent offrir en quelque sorte le symbole de tout ce qui revêt la puissance et la richesse. Pour que, en quelque sorte, Jésus vienne les transfigurer. Et surtout, nous fasse connaître toute la richesse qui vaille pour nous posséder Jésus dans nos vies. Nous possédons bien plus que l'or en ayant Jésus dans nos cœurs. Nous possédons bien plus que les richesses de ce monde en recevant Jésus dans nos cœurs. Quelle richesse ! Il est la manne, il est le pain. Mais quelle curieuse destinée pour ce roi à qui ses mages ont offert de l'or. Car Jésus fut un roi serviteur. Et Jésus n'est pas venu gouverner le monde. Il s'est incliné devant le monde. Il s'est effacé devant le monde. Il n'y avait pas d'orgueil en lui. Il s'est dépouillé de ses attributs royaux. Il s'est ramené à la condition du pire d'entre nous, du pire des criminels. Il a été considéré comme un rebelle insoumis, un serf insoumis, car la croix a été le châtiment qui lui a été infligé. Le sort réservé à un esclave rebelle. Les mages viennent magnifier Jésus qui va être celui qui va être assimilé à un esclave. Cette croix s'accomplit là aussi l'acte prophétique des mages. Quand le Pilate, le procureur de la plus haute instance juridique romaine, fit écrire sur un écriteau cette mention en trois langues. En trois langues. Les trois langues universelles, le grec, le latin et l'hébreu. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors les pharisiens ne voulaient absolument pas que sur cet écriteau soit mentionné Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ils auraient voulu une autre mention de sa condamnation, mais Pilate leur a répondu « Je fais ce que je veux ». Mais il accomplit là un acte prophétique. Ces mages qui offrirent de l'or à Jésus, nous révèle la souveraineté du nouveau-né. Il prophétise l'avènement de celui qui viendra régner. Le présent des mages, c'est-à-dire l'or, nous renvoie à ce texte de l'Apocalypse. Apocalypse 14, 14. Je regardais et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. bien ce texte de Luc, Luc 21, 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. » Et l'avènement, soyez-en certains, va arriver. L'avènement de ce Fils de Dieu qui va venir couronner sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire, cet avènement est proche. Amen. Amen. Il est vraiment proche. L'histoire connaît une sorte d'accélération. Alors c'est pour ça qu'il est temps pour nous de suivre celui qui est le roi des rois et ne pas suivre un autre. Suivre Jésus. Suivre Jésus de tout notre cœur, de tout notre être. Suivre Jésus. Il est le roi. Alors on va parler de l'encens. L'encens. L'encens, c'est une substance odorante. On passe à l'image suivante, Véran. Une gomme résine aromatique qui est dérivée d'un arbre à encens. Utilisée pour son odeur boisée, assez minérale, aux aspects qui sont légèrement épicés. L'essence de cette substance revêt une odeur extrêmement agréable. Alors, ce n'est pas l'encens de l'encensoir que versent les prêtres. Ça, quand le prêtre, je dirais, vient passer autour du cercueil pour mettre de l'encens, je ne pense pas que ce soit la bonne odeur. Il s'agit d'une autre odeur, me semble-t-il. Une substance qui est ici brûlée en sacrifice, une substance qui est mentionnée dans le livre d'Exode. Alors, c'est dans le livre d'Exode que l'on voit l'évocation de l'encens. Et je vous invite à lire au chapitre 30, du verset 34-37, la composition. Une substance qui est mentionnée et qui nous décrit la façon dont cela est mélangé, parce qu'en fait, l'encens fait partie d'un mélange. Donc, il nous est averti d'ailleurs que cet encens ne doit pas être utilisé de façon profane. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur en parties égales. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint, comme chacun d'entre nous est appelé à être aujourd'hui. Écoutez bien, à être le sel de la terre, à être sans tache et mis à part pour Christ. » Écoutez bien ce qui est dit dans la parole. Parce que je crois que parfois on est juste distrait. Le parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. C'est une évocation prophétique, comme chacun d'entre nous, puisque nous sommes appelés à être sacrificateurs, nous sommes appelés à être sans tache, nous sommes appelés à être le sel de la terre, et nous sommes appelés à être mis à part pour Dieu, car être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Amen. L'encens est de coutume réservé aux sacrificateurs. Et à nous tous aujourd'hui, il revient finalement de symboliser l'encens. Nous sommes aussi appelés sacrificateurs. Et en fait, en versant de l'encens, nous sommes appelés à déverser quoi ? La bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire, à ce jour, nous avons été appelés par Dieu pour effectuer ce service de sacrificateur. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient désignés pour se consacrer à ce service afin d'intercéder pour Dieu en faveur du peuple. Et je voudrais vous lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, du verset 14, « Tenons fermement la foi que nous proclamons, car nous avons un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. » Amen. L'encens qui est apporté par les mages nous renvoie au sacrifice suprême de Jésus, à la mort de Jésus. Et cette mort, nous la portons en nous. Si nous sommes appelés sacrificateurs, c'est parce que nous portons la mort de Jésus en nous. Ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, a été agréable pour Dieu. Un sacrifice de bonne odeur pour Dieu, le sacrifice de Jésus. Et son sacrifice nous a permis finalement d'être rachetés parfaitement. Nous sommes devenus aujourd'hui, par ce sacrifice, la bonne odeur de Jésus, destiné à devenir, lui Jésus, le roi des Juifs, roi de toutes les nations. Rappelons-nous à nouveau ce verset qui a été lu dimanche dernier. Rappelons-nous ce qui a été dit dimanche dernier. Ce présent que Dieu nous offre. Alors nous sommes ce sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aujourd'hui. Quand je témoigne autour de moi, eh bien, je fais de Jésus son temple. C'est lui qui est la manifestation en moi de son amour pour chaque personne que je côtoie, que chaque personne que je rencontre, que je suis amené à témoigner. Et je suis une odeur de vie ou bien une odeur de mort. Si tu reçois cette parole et que tu la reçois comme une parole vivante, c'est une odeur de vie que tu reçois en toi. Et si tu ne veux pas la recevoir, cette parole, c'est une odeur de mort. L'encens, qui n'a de valeur que symbolique, nous parle du sacrifice dans notre service. Notamment lorsque la parole de Dieu nous évoque ceci, « N'oubliez pas de faire du bien. » Merci de passer au slide suivant, Véran. « N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. » La suivante. « Et de vous entraider, car c'est bien de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Hébreux 13, 16. « N'oubliez pas de faire du bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Le vrai sacrifice, c'est de nous entraider. Amen. Oui ou non? Le vrai sacrifice que Dieu attend de nous, c'est de nous entraider les uns les autres. C'est de nous donner des coups de main. Est-ce que nous le vivons? C'est l'interpellation que Dieu nous fait. Et enfin, on va partager le dernier point, la mire. La mire. La mire, c'est une gomme résine aromatique qui est produite par l'abramyre. Une recherche sur la mire m'a conduit à comprendre toutes les vertus de cette plante. Je les ai trouvées fantastiques. Moi, je ne connaissais pas les vertus et les propriétés de la mire, donc je me suis enquis à enquêter sur les vertus et les propriétés de la mire. Et la mire est reconnue pour ses propriétés antiseptiques. Elle soigne les blessures. Et à ce titre, la mire est cicatrisante. Non seulement elle est cicatrisante, mais elle est aussi anti-infectieuse. Elle est aussi antalgique. Elle calme les douleurs. Elle est aussi antiputride. C'est pour ça qu'elle a été utilisée avec de l'aloès en mélangeant pour éviter la putrification du corps de Jésus. Elle avait été utilisée par Nicodème qui était venu avec 30 kilos d'aloès et de myrrhe. Elle est antisclérosante. Elle est anti-inflammatoire. Et elle est antispasmodique. Voilà toutes les vertus de la myrrhe. C'est extraordinaire. La myrrhe mélangée avec de l'aloès a été la plante cicatrisante utilisée par Nicodème, comme je l'ai rappelé. Lorsque l'on évoque les propriétés bienfaisantes de la myrrhe, comment ne pas se songer à ce texte d'Ésaïe ? Ésaïe chapitre 53, du verset 4 au verset 5. Écoutons bien la parole. Ésaïe 53, du verset 4 au verset 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. La myrrhe cicatrisante. Jésus devient la myrrhe pour chaque âme blessée, pour chaque cœur blessé. Peut-être que nous avons blessé maladroitement tel frère ou telle sœur, Eh bien, Jésus est la myrrhe qui vient cicatriser, qui vient mettre du baume, vient de mettre du baume sur ton cœur. Là où tu as péché, la grâce de Jésus a surabondé. Et probablement es-tu en situation de péché maintenant. Et le Seigneur vient te dire qu'il est la myrrhe. Qu'il est la myrrhe, si toi tu te repens de tes péchés, il est la myrrhe que tu peux recevoir dans ton cœur pour cicatriser, effacer, gommer, puisque c'est une gomme. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les trois actes prophétiques, l'or, la myrrhe, l'encens. L'or pour magnifier le roi des rois. L'encens pour déclarer qu'il est le souverain sacrificateur, celui qui a été élevé à la croix pour attirer à lui toutes les nations. La myrrhe pour blesser et racheter les nations, les laver de leurs péchés. Jésus est venu soulager ta peine, apaiser ta douleur, cicatriser tes blessures. Jésus a fait cela. Et les mages sont venus déclarer ces trois dimensions prophétiques pour nous. Ces trois présents ont été déclinés pour chacun d'entre nous comme une métaphore. Et nous sommes après Noël, mais comme un cadeau de la nativité. Trois présents qui nous rappellent que nous avons un grand souverain, un grand roi qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Demeurons ainsi fermes dans la foi, comme le proclame Hébreux 4,14, parfait comme l'or pur, car nous avons un souverain sacrificateur, plein de compassion. Et au travers de ce présent, l'encens offert par les rois mages, souvenons-nous, mes frères et sœurs, de cette odeur agréable, de ce sacrifice inouï que Jésus a consenti pour nous. Avec la myrrhe, souvenons-nous de cet autre présent qui vient finalement panser nos plaies, toutes nos blessures, celles de notre âme. Jésus peut également compatir à nos faiblesses. J'aimerais que nous réalisions que nous tous ici, il n'y a aucun d'entre nous qui soit idéal. Personne n'est idéal. Mais Dieu vient compatir à tes faiblesses. Mais puisses-tu reconnaître tes faiblesses? Puisses-tu reconnaître ta faiblesse? Puisses-tu dire, Seigneur, ouais, je suis pas très fort. Je suis misérable. Mais en toi, je m'appuie. Consentant que le sacrifice inouï que nous a offert Jésus est venu pour racheter la personne que je suis et qui était dans un état lamentable. Jésus vient cicatriser toutes nos plaies, souvenons-nous de la myrrhe. Matthieu 2,6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra avec soin Israël, mon peuple, qui paîtra avec soin l'Église, qui paîtra avec soin notre assemblée, qui couvrira la honte du pécheur et le rachètera parfaitement, s'il revient à toi de tout son cœur, de tout son être et de toute son âme. Puisses-tu venir à Jésus de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Le cadeau de Noël, c'est Jésus qui est venu pardonner nos péchés, nous racheter, nous couvrir de tout son amour. Nous couvrir de tout son amour. Gloire à toi, mon Seigneur. Toi qui es venu me racheter et me sauver, moi qui n'étais pas digne de toi, mais tu as fait de moi ton enfant. Seigneur, j'aimerais que nous recevions cette parole comme une parole prophétique. Et là, tu interpelles chacun d'entre nous à être en vérité avec toi. Et c'est vrai que message après message, tu nous as conviés à être en vérité avec toi, à être en pleine lumière avec toi, ne pas nous dérober, ne pas faire semblant de ne pas comprendre ce qui nous est dit. Seigneur, message après message, tu nous interpelles pour nous dire que tu es venu pour nous interpeller dans ce monde. Tu as pris en considération chacune de nos vies et tu pèses chacune de nos vies.
Et Seigneur, nous avons tant besoin de découvrir que toi, Seigneur, tu es le Sauveur. Père, nous ne méritions pas ta grâce, mais tu nous as revêtus de toute ta grâce. Puissions-nous la recevoir, puissions-nous l'accueillir, puissions-nous t'inviter, Jésus, à venir visiter chacun d'entre nous. Et pour l'année 2021 qui va être engagée dans quelques jours, Seigneur, puissions-nous nous rappeler, Seigneur, que chaque jour nous voulons être des témoins, accueillant, accueillant qui tu es, accueillant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que nous voulons partager autour de nous. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Amen.